Allez, l'interview du jour, c'est Jean-Christophe qui va la réaliser. Bonjour Jean-Christophe.
Oui, bonjour Joël. On devrait avoir Thierry Duboîtier de Kerouguen au téléphone. Thierry, vous êtes avec nous?
Oui, je suis là, bonjour.
Bonjour Thierry. Bon, alors on vous présente plus sur le radio, mais on va quand même vous représenter, ouais. Thierry, parce qu'on vous a régulièrement au téléphone. Alors, vous êtes le président fondateur du NIAC, le groupement national des initiatives et des acteurs citoyens. Vous êtes aussi président de Garance, Front Territorial France Active de Seine-Saint-Denis, président de Demain, qui est la ressource souris du 93, toujours en Seine-Saint-Denis. Et votre activité professionnelle, Thierry Duboîtier, c'est que vous êtes le conseiller spécial du commissaire général à l'égalité des territoires, à savoir le fameux CGET. Alors bon, Thierry, aujourd'hui...
C'est tout un programme déjà.
Oui, Thierry, tout à fait. Ouais. Alors on vous reçoit aujourd'hui, évidemment, en tant que président fondateur de NIAC. On a un partenariat avec le NIAC maintenant depuis plus d'un an. Et tous les 15 jours, on peut, grâce à vous, découvrir de nouveaux acteurs, de nouvelles initiatives qui font le NIAC aujourd'hui en France. Mais aujourd'hui, le NIAC, par rapport aux échéances et aux élections qui arrivent, élections présidentielles, élections législatives, voilà, 2017 va être une année de campagne, et le NIAC a envie de rentrer dans le débat présidentiel. Alors pourquoi, Thierry, et comment le NIAC va pouvoir se positionner dans ce débat présidentiel?
Oui, ben, effectivement, on a envie de dire des choses, puisque c'est un moment de grand remue-ménage où tout le monde avance des tas de propositions sectorielles, catégorielles, etc. On a une approche complètement transversale, hein, puisque notre réseau est constitué de personnes issues aussi bien du monde économique que de l'administration, des associations, de secteur de l'ESS, etc., dans les entrepreneurs de quartier. Et on n'a pas non plus d'orientation politique, gauche, droite ou autre, mais on est tous des citoyens actifs qui rencontreront un certain nombre de difficultés pour mettre en place ces actions qui permettent de trouver des solutions locales ou même nationales, hein, puisque là, nous, on est un réservoir d'initiatives, de compétences, et on voit bien que c'est pas toujours simple, que il y a des tas de blocages, de difficultés. Donc, on se dit que cette période de campagne présidentielle peut être l'occasion de challenger un petit peu les compétiteurs, les candidats aux élections, sur une base de mobilisation citoyenne, alors en faisant un certain nombre de propositions pour changer un petit peu la donne, enfin pour que les choses s'améliorent de notre point de vue. Alors on va pas parler de tous les sujets, je veux dire, on n'a pas pour le moment encore, on n'a pas de position sur les crises internationales ou sur le rôle de l'armée ou des choses comme ça. Par contre, pour tout ce qui est la participation des habitants, de la société civile aux décisions, pour tout ce qui est de tous les secteurs, on va dire de l'emploi, de l'insertion, du logement, la culture, etc., la santé, bon, voilà. On a quand même des idées sur la façon dont on pourrait faire évoluer les choses.
Alors peut-être Thierry, avant de nous parler de ce que vous voulez changer en politique, parlons des constats desquels vous êtes parti finalement pour proposer vos actions et des méthodologies. Alors de quel constat aujourd'hui finalement vous partez, vous les niaqueurs?
Oui, ben c'est les constats de NIAC, hein, dont on a parlé déjà plusieurs fois, donc je ne vais pas trop détailler, mais il y a la coupure entre la technostructure politico-administrative et puis la richesse des initiatives locales. Il y a les partis politiques qui sont quand même largement démonétisés, on voit bien que plus personne ne croit en eux. Une sorte de perte de confiance généralisée des uns envers les autres, envers la société, envers les institutions, etc. Donc les gens sont un petit peu paumés. Un autre sujet qui est l'hypertrophie parisienne, puisque il y a quand même l'essentiel des décisions sont prises à Paris, et c'est là qu'il y a les plus hauts fonctionnaires et les plus nombreux fonctionnaires,
on
etc.
est toujours dans cet état très jacobin, Thierry.
Malgré la décentralisation, il y a toujours autant de fonctionnaires dans les administrations centrales à Paris, bien qu'on ait décentralisé. Donc,
justement, on verra parmi vos propositions sur les fonctionnaires, on va y revenir.
Voilà. Après, il y a les méthodes de construction des solutions inadaptées. Bon, ça revient à la coupure que j'ai indiquée entre les initiatives avec technostructure, c'est-à-dire que tant que les solutions sont élaborées comme autrefois, c'est-à-dire par un petit groupe de personnes à Paris entre soi, etc., et qui sont pas mal connectées au terrain, eh bien effectivement, ça fait pas des solutions adaptées en général. Donc,
et oui, donc en termes d'efficacité, évidemment, c'est pas l'idéal, quoi.
Par ailleurs, il y a beaucoup de choses, donc tout tout existe ou presque sur le terrain, des tas d'initiatives, mais tout ça est mal utilisé. Je parle d'ailleurs pas seulement des initiatives, je parle aussi des réglementations, des dispositifs. Alors là, on en regarge, on est des spécialistes, on est très très forts.
Là aussi, il faudra peut-être penser à faire une pause, on va y revenir.
Voilà, c'est ça. Mais donc, finalement, cette profusion de dispositifs et de mesures, d'initiatives et tout ça, comme elles sont, tout ça est très mal utilisé,
et
ça
fait un gaspillage
de ressources humaines et financières considérables. Et puis donc, la richesse créative n'est pas suffisamment exploitée, soutenue et accompagnée, c'est-à-dire que ça veut dire justement tous les gens qui innovent en permanence, et bien ça, bon moment, on est assez nuls pour les...
Et oui, la fameuse initiative citoyenne, Thierry Chéroniac.
Ouais, oui, puis les innovations, il y a des gens qui inventent tous les jours des solutions, mais il leur faut un parcours du combattant invraisemblable pour arriver à les faire émerger et surtout les développer.
Alors peut-être tirer un mot sur vos valeurs, vos valeurs que vous affichez, que vous portez, qui vous aident dans cette démarche justement.
Oui, c'est important parce que j'insiste là-dessus parce que on n'est pas en l'air avec aucune idée particulière, etc. On s'assoit quand même sur un socle de valeurs. C'est pas simplement mon initiative et puis on saute comme un cabri sur sa chaise en disant vive les initiatives. C'est des initiatives. Pourquoi? C'est parce que on a un certain nombre de valeurs qu'on souhaite défendre, qui sont la citoyenneté. Bon, c'est-à-dire toute l'implication citoyenne, tout ça. Je passe. La solidarité, c'est-à-dire que il est important de maintenir un socle de politique publique de solidarité inscrite dans la durée, qui ne soit pas remise en cause tous les ans. C'est-à-dire qu'on ne va pas tout faire, nous, avec nos petits bras d'initiative et tout. Il faut qu'il y ait des grosses politiques de solidarité. Bon, je prends un exemple sur l'insertion par l'activité économique. Il y a des crédits pour l'insertion, tout ça. Bon, si le résultat de soutenir les initiatives, ça consiste à enlever les crédits d'insertion pour les mettre sur les initiatives des uns et des autres, on n'aura rien gagné. Il faut les deux, en fait. Voilà, donc, on a besoin de ce socle. Et puis, il y a le côté aussi intégration, insertion de tous, c'est-à-dire pas d'exclusion. Il n'y a pas deux catégories de Français, etc. Vous voyez ce que je veux dire. Pas de coupure entre les insiders et les exclus. Le développement durable aussi, bien sûr, puisque compte tenu de l'état du monde et de la société, il n'est pas question de gaspiller, de faire n'importe quoi. Donc, c'est le respect des équilibres et des écosystèmes, les économies d'énergie, la sobriété, le réemploi, le recyclage. Après, les territoires, très important, puisque on veut s'appuyer sur les territoires pour faire bouger les choses.
Les initiatives et du terrain, quoi.
Voilà. Et puis, enfin, la coopération. Bon, c'est un mot qui est large, qui peut être vague, mais qui est très important, parce que c'est la coopération sous toutes ses formes. C'est-à-dire, plutôt que le conflit, plutôt que chacun dans son... et que le cloisonnement... Voilà, c'est le décloisonnement et comment on travaille ensemble. Donc, la coopération, elle peut être territoriale, ça peut être le public et le privé, ça peut être l'ESS, non-ESS, etc. Alors, avec un soutien fort quand même à tout ce qui est l'ESS, l'économie sociale et solidaire et l'innovation sociale, qui devrait infuser un peu dans toutes les politiques publiques. Et puis, un soutien fort aussi aux logiques coopératives de développement territorial. Tout ce qui est pôle territoriaux de coopération économique, pôle citoyen pour l'emploi, start-up de territoire. Enfin, il y a plein d'exemples. Et c'est là-dessus qu'on veut s'appuyer. Donc, voilà le socle de valeurs sur lequel
On a vu les constats que vous avez pu faire, effectivement ces valeurs qui vont permettre de guider votre action et vous proposer justement de changer la méthode et une nouvelle méthodologie. Et en réaffirmant la puissance de l'État, le rôle et la puissance de l'État, la puissance des politiques publiques en général. Mais avant ça, il faut passer par une petite pause. Concernant la législation.
Alors, d'abord, le grand principe de base, c'est de changer la méthode de construction des solutions aux problèmes, en partant d'abord des territoires et des initiatives de terrain. Tout ne peut pas venir de là, mais énormément peut venir, et c'est la base, c'est un peu un renversement de la charge de la preuve. C'est-à-dire, d'habitude, on part du truc national, et ensuite, on regarde si territorialement, il y a quelque chose qui peut aider, alors que là, ce qui est proposé, c'est qu'on part plutôt de ce qui se fait déjà, et qu'ensuite, on voit comment, à partir de là, on construit des politiques nationales.
Donc, voilà. Le modèle de la pyramide, là, n'existe plus. Quoi, c'est transversal.
On renverse ça, voilà, absolument. Alors après, pause normative, c'est-à-dire l'idée de dire il faut arrêter de faire sans arrêt toute la journée des lois, des règlements et tout, parce que qu'est-ce qui va se passer avec le changement de gouvernement, c'est que le prochain gouvernement va arriver avec sa batterie de propositions de lois, de projets, et tout de suite il va falloir changer tout un tas de réglementations. On va commencer par évidemment supprimer celles que les autres ont mis en place, une partie, et vouloir tout de suite ensuite en remettre d'autres, etc., etc. Donc on n'en sort plus. Et là, on pourrait peut-être dire stop, on arrête. Hein, on fait des lois, mais uniquement des lois qui servent à simplifier celles qui existent. Hein, mais et puis en attendant, on regarde comment on exploite au mieux tout ce qui existe déjà. Et voilà, puis après, on verra s'il y a des trous dans la raquette, ben on les bouchera avec des lois supplémentaires. Mais si on cherche bien, on s'aperçoit qu'il n'y a pas forcément beaucoup de trous dans la raquette, tellement il y a déjà de dispositifs et qui, dont certains sont très peu utilisés, mais qui existent déjà, donc pas la peine de les recréer.
Oui, c'est vrai que les Chinois appellent la France le pays de la loi, Thierry. On aime beaucoup faire des lois. Donc la petite pause pendant deux ans préconisée. Voilà.
Oui, voilà, c'est ça.
Et alors, puis, le rôle de l'État, Thierry.
Oui, le rôle de l'État.
Redéfinir peut-être son rôle.
Oui, on ne peut pas tout faire tout seul. C'est ce qui marche, c'est l'État et la société civile ensemble. C'est pas l'État tout seul ni la société civile tout seul. Mais l'État, par contre, redéfinir son rôle en le mettant plutôt dans un rôle de catalyseur des initiatives de la société, donc en étant qu'il soit à l'écoute de ce qui se passe, qu'il soit là pour essayer de faciliter tout cela, toutes les initiatives et les actions utiles. Qu'il puisse occuper une place un peu d'investisseur social, c'est-à-dire que quand on a repéré quelque chose d'intéressant, ben il faut souvent un coup de pouce financier pour passer une échelle suffisante. Donc
oui,
là,
fait,
ben, ça, du coup, l'État, ben il pourrait mettre, c'est lui qui pourrait
la main à la poche, ce
moment-là. Là, voilà. Réduire les inégalités territoriales aussi, parce que ça, effectivement, entre les métropoles qui sont très dynamiques, les milieux ruraux.
Oui, donc rééquilibrer quand c'est nécessaire, évidemment.
Et voilà, ça c'est important. Et puis qu'il soit le garant ultime de l'intérêt général, au sens où c'est bien que chacun ait sa petite initiative dans son coin, mais il faut quand même regarder s'il est dans l'ensemble.
C'est cohérent d'un point de vue national.
Oui, voilà. Voilà. Donc l'État a tout à fait son rôle à jouer. Et, par contre, il doit mieux travailler avec tout ce qui est innovation sociale, qui quant à elle, l'innovation sociale doit concourir à la création de nouveaux pôles de coopération entre la puissance publique, la société civile, le monde entrepreneurial, etc. Donc c'est comme disait Hulkibill dans son dernier livre, qui est très intéressant, La Grande Promesse, et il nous faut l'État et la société civile. Donc,
voilà, d'accord. Les principes de base, l'un n'exclut pas l'autre, tout à fait. Au contraire, elle s'articule, et c'est ce que vous proposez, à travers des principes d'action, mais aussi des mesures opérationnelles, pour soutenir notamment les initiatives qui viennent du terrain, comme on le rappelait, et les porteurs de projets.
Oui, tout à fait. Donc on a dans les principes d'action, j'en ai déjà un peu parlé, mais je le redis rapidement, il y a l'idée de redéfinir les politiques publiques en associant leur définition et leur mise en œuvre les élus, les agents publics et les utilisateurs, c'est-à-dire un peu tous ceux qui sur le terrain agissent, dans une logique de co-construction, de reconnecter la démocratie représentative et démocratie citoyenne, les politiques publiques et les initiatives locales. Donc ça, c'est un principe. Alors, à partir de là, je vais pas détailler, mais on a déjà des gens qui le font.
Tout à fait, au quotidien, avec Niac notamment, Thierry.
C'est ça, et puis on a des exemples concrets à proposer de choses qui existent.
Sur l'emploi, sur la formation.
Voilà. Alors après, il y a le deuxième principe, c'est de favoriser les alliances, la coopération et les dynamiques territoriales qui associent le monde économique, le monde associatif et la sphère publique. Voilà. Le trio gagnant, c'est quand ces trois entités, on va dire, travaillent ensemble pour chercher des solutions. Et là aussi, on a des exemples, le pôle citoyen pour l'emploi dont on a parlé plusieurs fois, c'est tout à fait ça, Marseille Solutions, Start-up de territoire, enfin, il y a des exemples, utilisons-les pour que ça marche mieux. Le troisième principe d'action, c'est de soutenir la construction de synergies, de bouquets de solutions issues de la société civile. Donc là, c'est l'idée de dire, effectivement, on a repéré beaucoup de tas d'initiatives, c'est très bien, mais enfin, c'est pas parce qu'on met une initiative plus une initiative à côté les unes des autres que ça fait quelque chose de forcément génial.
Créer des dynamiques de réseau plutôt, Thierry.
Voilà, c'est ça, absolument. Et puis des dynamiques de bouquets de solutions, de synergies, c'est-à-dire trouver comment est-ce qu'en mettant énergie jeune, plus l'Alliance, plus Télémac, plus Ubdeco, etc., plus NQT, plus SNC, tous ces trucs-là. Bon, comment est-ce que, quand on les met ensemble sur un territoire, est-ce qu'on arrive à faire quelque chose de plus et de mieux? Donc, mais là, l'enjeu, c'est ça. Donc, c'est un principe d'action. C'est pas du tout évident. Ça va pas de soi, mais c'est une piste importante.
Alors, des mesures aussi, Thierry, dans ces propositions pour soutenir les initiatives citoyennes, les initiatives qui émergent du terrain,
Oui, voilà. Alors là, il y a quelques mesures qu'on peut mettre en avant. On pourra en trouver d'autres, mais on a déjà quelques-unes qui sont des actions, des mesures opérationnelles, alors qui sont vues dans l'optique c'est l'État qui, il y a un nouveau gouvernement, il se met en place. C'est ça, qu'est-ce qu'il va faire? Donc là, on lui propose, par exemple, de soutenir fortement l'innovation sociale et la créativité citoyenne en créant une sorte de plateforme nationale interministérielle qui se décline ensuite au niveau régional et départemental, doté de plusieurs milliards d'euros par an. Moi, j'ai mis, par exemple, à titre indicatif, 3 milliards d'euros par an, ça représente 0,7% des 500 plus grandes fortunes de France. Alors oui, c'est quand même pas beaucoup.
Mais, faut pas enlever l'impôt sur l'ISF, l'impôt sur les grandes fortunes.
Ah bah non, bien sûr, non. Au contraire, à la limite, on mettrait 0,7 points de pas de plus, mais on dériverait une petite partie de l'impôt sur la fortune là-dessus. Mm-hmm. Ce serait que juste retour des choses, je dirais.
Donc là, ça serait un véritable fonds de soutien, quoi, la création d'un fonds de soutien à la créativité citoyenne.
Voilà, parce qu'actuellement, si vous voulez, vous avez des fonds de soutien. Alors vous en avez au ministère de l'Agriculture, au ministère des Finances, au ministère du Logement. Alors chacun son petit fonds. C'est confidentiel, c'est toute une histoire pour y accéder, etc. Il faut être très calé, il y a des appels à projets, etc. Bon, bref, et tout ça est très éparpillé et ça ne fait pas non plus un effet de masse. Et puis c'est difficile d'y accéder. Et puis c'est parcellisé, c'est-à-dire que vous allez sur un fond qui va favoriser du logement, ben il favorisera du logement. Mais oui. Si c'est de l'emploi, il prendra pas rien.
Oui, là, ce serait interministériel.
Donc, l'idée, c'est d'avoir interministériel, c'est-à-dire un fond tous les ministères mettraient au pot et on aurait de quoi financer. Alors quoi? Ben, par exemple, la construction d'un ce que j'appelle un hub des innovations et des initiatives, ce qu'on n'a toujours pas fait, c'est-à-dire un endroit où on puisse repérer les meilleures initiatives, les meilleures innovations, et que ce soit un lieu de capitalisation, d'échange et d'interconnexion des réseaux et des structures qui recensent les initiatives.
Et oui, innovation, initiatives qui demain feront de l'emploi, feront de la richesse dans le pays.
Ben, bien sûr, voilà. Alors après, cette plateforme aussi permettrait de soutenir les expérimentations et l'amorçage de nouvelles solutions. Parce que de nouvelles solutions, un peu une fonction R&D, recherche-développement. Actuellement, ça pêche aussi par là. C'est-à-dire que c'est toujours très compliqué d'expérimenter parce qu'on vous dit, ah oui, mais vous n'avez pas le droit, ceci, il y avait des réglementations, cela. Donc là, il faudrait pouvoir faciliter l'expérimentation. Et ce qui est dur aussi, c'est d'amorcer, c'est-à-dire de lancer les nouveaux projets, les nouveaux concepts. Donc ça, ce fonds pourrait le permettre. Ainsi que, après, autre étape difficile, toujours le changement d'échelle.
Et oui, parce qu'après l'avoir testé sur le terrain à une petite échelle, il faut passer à une autre échelle, évidemment.
Voilà, et ça demande toute une ingénierie qui n'est pas du tout évidente. Il ne suffit pas de dire mon initiative est bonne, j'appuie sur un bouton et elle est multipliée par 200 en France. Non, ça ne marche pas comme ça. Donc il y a toute une ingénierie, des méthodologies à mettre en place que ce fonds interministériel pourrait favoriser, de même qu'il pourrait favoriser aussi toutes les implications citoyennes pour aider les gens à mettre en place des méthodes innovantes de construction de solutions, là, dont on a parlé tout à l'heure, design de service, atelier de créativité, etc., Fab Lab et autres, et de formation conjointe des élus locaux, des agents publics et de la société civile, enfin des choses comme ça, qu'on pourrait financer.
Voilà. Donc des mesures opérationnelles, il y en a d'autres, notamment avec des enveloppes globales de crédit déconcentrées interministérielles.
Après, il y a des trucs qui sont plus techniques, pas détaillés, des enveloppes globales de crédit, privilégier les appels à manifestation d'intérêt et le travail collaboratif plutôt que de faire sans arrêt, des sempiternels appels à projets qui éliminent les faibles, les petits et qui ne favorisent que les gros, etc.
Bon, et puis. Et ce qui est intéressant, c'est aussi votre action concernant les fonctionnaires et la répartition de ces fonctionnaires. Parce qu'on a entendu dans certains programmes politiques qu'on voulait supprimer un bon nombre de fonctionnaires, je crois 500 000. Et alors vous, c'est pas votre idée, Onia? Vous pensez plutôt à répartir différemment, c'est bien ça?
Oui, tout à fait. Oui, voilà. Bon, je ne dis pas qu'il n'y a pas forcément trop de fonctionnaires ici ou là. Mais on peut pas prendre un chiffre comme ça et dire il y en a trop dans l'absolu. Mmh. Il faut voir, ça dépend ce qu'ils font. Alors, effectivement, s'il y a des tâches qui sont confiées plus à la société civile, et puis ça peut se concevoir dans certains cas. Si je prends par exemple les pompiers et les pompiers volontaires, bon, c'est pas des fonctionnaires, c'est des pompiers volontaires. Et personne n'est choqué de dire qu'il y a des pompiers volontaires qui participent au service public de la sécurité. Donc on peut imaginer des solutions qui associent aussi d'autres personnes, mais c'est pas dans un but de supprimer des fonctionnaires, c'est dans un but de mieux faire fonctionner en fait le service. Alors dans certains cas, ça permettra peut-être de diminuer le nombre de fonctionnaires, dans d'autres cas peut-être qu'il faudra au contraire les augmenter. Donc il faut pas du tout être manichéen là-dessus. Par contre, il y a une chose qui qui me semble importante, c'est que il faut qu'on puisse affecter plus de, puisque dans l'idée de favoriser ce qui se passe sur les territoires.
Oui, donc plus de fonctionnaires sur le terrain, quoi, dans les territoires.
Alors, je parle des fonctionnaires de l'État, des administrations centrales de l'État, qui sont dans ce qu'on appelle les ministères. Bon, eh bien, il y en a trop. Alors, il n'y en a pas trop actuellement compte tenu du mode de fonctionnement, puisque tout est centralisé et on leur demande tout et l'impossible. Donc, effectivement, ils sont plus ou moins débordés aussi dans les ministères. Mais comme on propose une autre organisation qui consiste à partir plus des dynamiques territoriales, et bien à ce moment-là, les fonctionnaires qui sont à Paris...
Il faut qu'ils soient sur le territoire, finalement.
Ils viennent pour aider, pour soutenir les initiatives locales. Donc, j'ai mis un chiffre comme ça. Bon, mais c'est pour avoir un chiffre, mais j'ai dit...
au moins 20% des fonctionnaires.
Si on met 20% de fonctionnaires qui sont actuellement dans les ministères à Paris, si on est sur le terrain, ça fait quand même 35 000 personnes, environ.
Qui pourraient être au plus près des porteurs de projets, des initiaties locales.
Qui seraient réparties dans les territoires pour soutenir les projets. Voilà. Après, il y a l'idée aussi d'organiser une sorte de mécénat de compétences fonction publique, parce que ça existe dans les grandes boîtes, ils mettent des personnes à disposition des associations.
C'est ça, oui, tout à fait.
Voilà. Eh bien, il se trouve que dans l'administration parisienne, justement, enfin, dans les ministères, il y a un certain nombre de fonctionnaires qui, pour diverses raisons, sont sans affectation, temporaires, parce qu'il y a des réorganisations, ils ont occupé un poste, etc., où ils sont proches de la retraite, etc. Mais compte tenu de la masse d'agents publics qu'il y a à Paris, ça fait quand même plusieurs centaines de personnes, voire plusieurs milliers de personnes qui sont en fait sous-utilisées.
Oui, et puis des personnes ressources dont on aurait bien besoin, par ailleurs.
Des personnes ressources, là. Voilà. Et donc, on dit plutôt que de les sous-utiliser ou qui soient mal employés, eh bien, on pourrait, pour ceux qui sont sur une base volontaire, les mettre à disposition temporaire, le temps qu'ils retrouvent un poste, etc., selon les réorganisations des ministères, eh bien, ils pourraient aller passer quelques mois dans des associations ou des structures d'intérêt général.
Alors, vous pensez aussi à la formation des futurs agents publics. Hein.
Alors, ça c'est très important, parce que, aussi, c'est vrai qu'il y a eu des efforts dans les écoles comme l'ENA, les IRA, etc. On met maintenant des stages dans les entreprises, on met des stages dans les administrations locales, etc. Donc il y a quand même il y a des efforts qui sont faits. Par contre, à ma connaissance, il n'y en a pas ou très peu de stages qui sont organisés dans tout le secteur de l'économie sociale et solidaire, ou dans les associations, ou dans les entreprises sociales.
Donc,
ou dans des TPE, ou des choses comme ça. On mettrait
ça ferait du bien à tout le monde, finalement.
Oui, parce que voilà, ça pourrait aider les gens sur le terrain. Puis surtout, ça permettrait à ces fonctionnaires de
connaître un peu mieux
de
cette
voir
réalité-là.
Concrètement la vraie vie, entre guillemets. Je n'aime pas trop ce terme-là, mais enfin, qui voit certains types de problèmes qui ensuite nous causent beaucoup de difficultés. Et justement, quand on est porteur de projets, vraiment qu'ils soient avec une association qui monte des projets, ou une entreprise de l'économie sociale et solidaire qui développe des produits et qui a du mal, etc. Ils voient ce que c'est que la galère pour trouver des clients, remplir des dossiers, l'appel à projet, les demandes de subventions, etc. Quand on ne l'a pas vécu, on se dit, on s'en va simplifier.
Donc ça serait vraiment...
C'est important.
Ça enrichirait tout à fait la formation.
Voilà, et aussi l'idée d'avoir des formations qui associent les fonctionnaires avec des entrepreneurs, avec des associations. Parce que, par exemple, si je prends... Alors ça, c'est plus, par exemple, au niveau local, avec les élus locaux. Moi, j'avais vu ça quand j'ai travaillé dans les collectivités locales. Vous avez des formations pour les élus locaux. Donc, les élus partent en formation entre eux. Très bien. Mais ils le font pas avec les services, avec leurs propres services.
Donc, la formation commune, agents publics, élus, entreprises, associations.
Voilà, élus, voilà, exactement. Et puis, ils le font encore moins avec les partenaires extérieurs. Donc, si vous mettez dans une salle de formation ensemble des élus, des agents, des services techniques, enfin des agents, des techniciens des municipalités ou des collectivités, et des usagers, je dirais des associations, des entreprises, bah forcément ça va être un peu différent de la formation traditionnelle. Les gens vont plus se comprendre, ils vont avoir envie de travailler ensemble peut-être, et ça va créer des synergies.
Oui, tout à fait. Donc, voilà, on va repérer les grains de sable qui des fois empêchent les rouages de fonctionner et les enlever le plus rapidement. Alors on peut pas détailler l'ensemble des propositions, Thierry. du Boîtiez, mais tout de même, comment vous allez faire passer maintenant ces réflexions, ces propositions, mais dans le débat des présidentielles, comment vous allez vous employer?
Je sais pas si vous avez une idée, ça m'intéresse. Par l'intermédiaire de gens comme vous, évidemment, il faudra déjà que la presse s'en saisisse, mais le problème, c'est qu'on est là dans un système de course à la présidence où c'est que les gros qui sont entendus quasiment, et en plus comme tout le monde veut y aller de sa petite idée, ça foisonne dans tous les sens, c'est très difficile de faire la part des choses et de...
Mais tout de même Thierry, vous allez envoyer des courriers aux différents candidats?
Bien sûr, on va envoyer ça, on va envoyer des courriers aux candidats, on va envoyer tout ça à la presse, on va essayer de faire une campagne de presse,
donc on se rend plaisir de relayer sur nos radios, Thierry.
On a notre plénière NIAC qui est prévue le 2 février à Paris. Ce sera le sujet central de cette plénière. Donc on va essayer de faire venir du monde et de faire relayer. Quoi. Alors, de toute façon, si vous voulez, moi je dis, de toute manière, on avance. Bon, alors on nous écoute ou on nous écoute pas. De toute façon, nous on construit. On n'est pas des inactifs, on construit. Donc on avance.
Donc quoi qu'il arrive, on continue.
Donc quel que soit le résultat des élections, on continue à avancer comme ça. On a notre ligne qui est assez précise, qui est assez claire, et on avance. Et puis après, il y aura les élections. Si on arrive à faire passer un certain nombre d'idées, là, parce que ça progresse quand même, hein, petit à petit, les candidats.
Oui, tout à fait. Les candidats se disent
tous maintenant anti-système. Ils disent tous qu'ils vont consulter mieux les populations, etc. Bon, dont acte.
Vous avez des méthodes que vous avez déjà utilisées depuis quelques années.
Voilà. Pour nous, c'est pas seulement des slogans, puisqu'on a des exemples et on peut les mettre sur la table. Ça se fait comme ça, là, donc faisons-le.
Thierry, peut-être pour conclure cette interview, on va être obligé de rendre l'antenne. Thierry Duboîtiez, on le disait, président fondateur de NIAC, groupement national des initiatives et des acteurs citoyens. Peut-être un mot sur d'autres mouvements citoyens aussi qui émergent à l'occasion de ces élections présidentielles, et notamment peut-être le mouvement Zèbre avec Alexandre Jardin, pour pas qu'on confonde les deux. Distinguer du Zèbre.
C'est vrai qu'on est proche sur certains constats et sur certaines idées. Par contre, on n'est pas tout à fait dans la même démarche politique entre guillemets, puisque eux, les Zèbres, c'est Alexandre Jardin qui s'est déclaré, mais c'est vraiment en soutien des Zèbres. Donc il y a quelqu'un, en l'occurrence Alexandre Jardin, qui est candidat à l'élection présidentielle.
Oui, ça ne sera pas le cas pour le NIAC, rappelons-le.
Moi, je ne suis pas candidat, je vous confirme.
Pas encore, peut-être.
À l'élection présidentielle. Voilà. Donc, lui, du coup, si vous voulez, ça l'oblige à se mettre dans une posture qui devient forcément très politique. Et on va voir, tout le monde va chercher à savoir où il se situe sur l'échiquier, etc. Et puis, il est obligé aussi de développer des propositions, mettons, sur la défense nationale, internationale, etc. Chose que NIAC ne prétend pas faire à ce stade. C'est vrai qu'on est proche sur les constats. Et certaines des idées avancées par Alexandre Jardin dans sa plateforme rejoignent celles que j'ai dit, elles sont peut-être moins détaillées, elles peuvent varier un peu, mais enfin, il y a quand même des choses qui ont quand même pas mal de choses en commun, hein, donc il faut aller tous dans le même sens.
Très bien, si on veut retrouver, Thierry, si on veut retrouver quelques éléments, quelques infos sur justement ces propositions pour le débat présidentiel émises par le NIAC, on va sur le site du NIAC tout simplement.
Oui, sauf que vous ne les trouverez pas encore, parce que c'est un peu un scoop, hein, vous êtes le premier à qui j'en parle, de manière détaillée.
Donc d'ici quelques semaines, Thierry,
d'ici peu de temps, elles sont pas encore validées, finalisées. Si vous voulez, là, ce que je vous ai dit, c'est la position de Thierry Duboîtiez, président de NIAC.
Merci pour la primeur, Thierry. Hein.
Voilà, on a quand même déjà discuté avec le conseil d'administration, on a fait un séminaire, etc. Donc grosso modo, si vous voulez, il y a un accord sur la ligne, ce que j'ai dit là, mais on n'a pas finalisé un document. Enfin, ça tournera autour de ça quand même, certainement.
On donnera des nouvelles aux auditeurs, Thierry, régulièrement, et puis on appelle les candidats qui sont déjà déclarés à se rapprocher du NIAC pour prendre en compte les propositions du NIAC, Thierry.
Oui, et puis si il y a des auditeurs qui souhaite contribuer par rapport à tout ce que j'ai avancé comme idée, ben peut-être par votre intermédiaire, ou je
bien
sais
entendu.
Pas par quel intermédiaire, peut-être ou je parle par la radio ou par sinon sur diac.fr, qui n'hésite pas à contribuer parce que tout ça est collaboratif, hein, c'est pas.
Donc tout le monde peut y participer.
Hein. Oui, voilà, il faut que les uns et les autres puissent réagir et apporter éventuellement d'autres idées.
Bon, merci encore Thierry pour l'ensemble de ces explications. On vous souhaite mais, de bonnes fêtes de fin d'année à vous et à travers vous à l'ensemble des niaqueuses et des niaqueurs. Voilà. Et puis et l'ensemble
merci.
De l'équipe aussi du NIAC et on n'oublie pas Denis et tous les
bien
autres.
Sûr.
Et ben, on vous dit à très vite ben, l'année prochaine
ouais.
Thierry.
Ok, l'année prochaine.
Merci encore.
Allez, bonne fête.
Au revoir.
Au revoir.
Allez, merci bien sûr à Thierry Boutez de Cœur Organe et merci à vous Jean-Christophe. Allez.